Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, je vous emmène au fil des mouvements sociaux qui ont secoué le globe depuis le mois de septembre. Nous irons avec la bande-son qui les a accompagnés. Les protestons, on ne découvre évidemment pas ce que c'est, mais la couleur, l'histoire, le chemin des chansons qu'on a entendues dans les cortèges parlent aussi du pays qui est touché et de l'époque que nous vivons. Vous verrez, c'est passionnant. Le bruit du monde est en Égypte avec les femmes qui veulent revoir le code de la famille tellement patriarcal. Il a changé une fois et la copie est d'urgence à revoir. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Maria Melchiordi a trouvé une école pour transgenres au Pakistan. Shakespeare déconfiné en Grande-Bretagne. Et les jeunes Alexa au Royaume-Uni qui en ont marre de s'appeler comme un assistant vocal. À 18h50, le cinéma en VO et à Cannes, dans les salles aussi d'ailleurs, avec Corinne Pélissier et Désigné coupable de Kevin MacDonald. À 18h55, c'est Le Monde d'après de Jean-Marc Four. Et cette question, est-ce que l'Europe y va trop fort sur le climat? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
On est ravis Cyril de vous avoir avec nous ce soir dans Un jour dans le monde. Depuis le début de l'été, pour les auditeurs fidèles sur France Inter, vous nous faites partager des petites pastilles où se mêlent tous les mouvements sociaux, les manifestations, les heurts, parfois les guerres même qui ont traversé toute cette année. Et vous nous les remémorez à travers les musiques qui les accompagnent. Et c'est vrai qu'il y a une bande-son des événements dans le monde, des événements qui secouent le monde. Et parfois, cette bande-son est même très étonnante.
Oui, alors c'est pas un phénomène nouveau en soi. La musique a toujours accompagné les mouvements de contestation. Et puis, on est tous allés dans des manifs. Il y a quelque chose de galvanisant à chanter ensemble et chanter en chœur. Il y a eu des grands moments aussi dans l'histoire de la musique contestataire. Je sais pas, les années 60,
bien sûr,
le mouvement
États-Unis,
des droits civiques aux États-Unis, la Motown, les chansons d'Aretha Franklin qui accompagnaient les combats de la communauté noire. Ce qui est plus nouveau et ce qui est un phénomène d'aujourd'hui, c'est à travers forcément les réseaux sociaux, la façon dont tout ça circule en temps réel. En fait, on peut vibrer en temps réel avec des mouvements contestataires à travers le monde. Et c'est vrai pour aussi bien ce qui se passe en Asie du Sud-Est, en Thaïlande ou à Hong Kong, au Chili, au Proche-Orient, etc.
Alors, en temps réel, Cyril, avec évidemment une vraie modernité, les réseaux sociaux, etc. Et pourtant, la première chose qu'on va entendre, c'est ça, et ça date pas d'hier. Et ça, Cyril, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi on entend Louis Siak, chanteur catalan, qui a vécu en France longtemps à cause du franquisme, on l'entend ici, en Biélorussie, au milieu des manifestations hostiles à Loukachenko.
Alors ça, c'est une histoire assez dingue, effectivement. L'Estaca, cette chanson de Louis Siak, qui est très très populaire en Catalogne, non seulement, mais pour des mouvements de contestation un peu partout dans le monde. Et cette histoire, cette chanson, elle a eu tout un parcours, elle a été traduite dans plusieurs dizaines de langues, elle a eu énormément de versions et de reprises, et notamment en Pologne au début des années 80 avec les manifestations de Solidarność.
Ah, c'est pas pareil, hein.
C'est pas la même ambiance.
Ah, mais non.
En tout cas, c'est cette chanson qui a profondément marqué et accompagné le mouvement Solidarność en Pologne, donc au début des années 80. Et cette version polonaise est arrivée jusqu'aux oreilles des Biélorusses, particulièrement d'un poète biélorusse qui s'appelle Andrei Chodanovitch. Il en a fait une version traduite donc en biélorusse. Et c'est cette chanson qui est devenue l'hymne des manifestants contre Loukachenko.
Однажды дед говорил мне, когда светало вдали, мы с ним у дверей стояли и телеги мимо ползли.
Alors les Biélorusses lui ont redonné son petit côté catalan quand même
ouais,
à Louis Siak.
Ça, ça,
oui, ça chante toujours, on a retrouvé la guitare. Et c'est incroyable de trouver cette chanson à cet endroit-là. Allons au Chili, Cyril. Le Chili, en 2019, qui sort dans la rue pour aboutir en ce mois de juillet, d'ailleurs là en ce moment, aux premiers travaux de la première assemblée constituante. Très grosse tradition de musique protestataire au pays, évidemment, de la dictature de Pinochet.
Voilà, il y a une histoire très forte qui est celle d'un chanteur qui s'appelle Victor Jara, qui était une figure de la gauche chilienne, qui a été raflé le jour du coup d'état de Pinochet en 73 et qui a eu les mains brisées dans le stade de Santiago. Son histoire est restée évidemment très célèbre, très emblématique pour les Chiliens. Et donc on a beaucoup, beaucoup entendu ces chansons pendant les manifestations de ce mouvement de colère sociale au Chili ces deux dernières années, comme par exemple sur cette scène qui est assez incroyable. On est à Santiago, il y a plusieurs centaines de Chiliens, ils ont tous pris leur guitare et ils chantent tous ensemble à l'unisson.
Vous avez raison, hein, c'est des, une espèce de moment de communion dans une foule qui met un peu les poils au garde à vous. Quand même.
Et il y a eu des scènes incroyables pendant ce mouvement au Chili. Il y a une scène aussi très forte, un soir de couvre-feu à Santiago, où une chanteuse d'opéra se met à sa fenêtre et elle se met à chanter cette chanson toute seule dans le silence de Santiago. Et il y a des centaines de personnes qui se mettent à applaudir et à hurler. C'était vraiment très fort. Il y a vraiment eu une communion des Chiliens autour de cette musique, de ce personnage qui est tellement emblématique. Est-ce qu'on écoute un tout petit extrait de Victor Jara pour entendre sa voix?
Allons-y.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea.
Je m'excuse même auprès de Victor Jara de le couper aussi brutalement, parce que je voudrais qu'on change intégralement de registre avec ça.
اهدى ما هو كل شي باين في المحنه الله بيشهد مين احنا رجاله ضمن طرطش لك بنضرب حرب الليله ما بنغلب بدك شبال وعادي من هدلك مرحب فيك في ولاد القدس من دبر حالنا محل اللغز رنيت على نفحه وكل بخش وقت شفنا وياما وكله بصف ولا مره نخاف ولا مره ونص بدك بركان بنفقع بنعمل لك حفله تخش تنط نستقدم
سيريل لو راب forcément accompagne les mouvements de contestation chez les plus jeunes. Qu'est-ce qu'on entend là? On est où?
On est au Proche-Orient, on est plus particulièrement à Jérusalem Est. Il y a eu ce mouvement de contestation au mois de mai, hein, contre l'expulsion de familles palestiniennes dans le quartier de Sheikh Jarrah. Manifestation réprimée, on sait ensuite tout ce qui s'est passé à Gaza. Et en fait, cette chanson en particulier, qui est la chanson d'un duo de deux rappeurs, hein, Dabour et Shabjid, est devenue le cri de ralliement des manifestants palestiniens à ce moment-là. C'est un morceau qui n'avait pas été écrit pour la contestation, mais il s'est juste trouvé au bon endroit, au bon moment. Il est en fait, il émane d'un collectif de rappeurs qui s'appelle BLTNM, Platinum, c'est un collectif de Ramallah, et qui incarne le combat et les interrogations des Palestiniens, pas uniquement sur un engagement politique, mais cette tension qui est dans la région pousse à la création, pousse à une créativité incroyable. Il y a une scène rap palestinienne qui existe depuis très longtemps et qui avait déjà, par exemple, marqué la première intifada. On se souvient de ce groupe d'Arabes israéliens, le groupe Dam, qui est originaire de la ville mixte de Lod.
بسم الآب اركع للرب اركع لموسى اركع لبودا
اركع ليسوع
اركع بالكعب اركع بالعشورة اركع لبيجي
او اركع لتوبك
اركع كموسى بده ينقذ نفس اللي عم بتعد نفوسك
اركع ما تركع لمين ما تركع كيف ما تركع كله لك برجع
اركع تتقطف شي زنبقة.
Et le rap est devenu donc un moyen d'expression privilégié pour ce peuple ghettoisé, hein, que sont les Palestiniens. Je voulais juste vous faire entendre un autre extrait de musique qui est assez incroyable. Ça date aussi, c'est tout récent au moment de ce conflit à Gaza. Il y a un garçon palestinien de 12 ou 13 ans. Il s'appelle MC Abdul. Il rappe en anglais. Il a récupéré un instru d'Eminem et il a tourné une vidéo où il marche dans les rues de Gaza en ruine, en rappant et en racontant ce qui arrive à son peuple.
Palestine's been occupied for decades, but a home for centuries. This land is generations of my family's memories. To plant, grow, and nurture the symbol of peace. The olive trees guaranteed that our people could eat. Living with limitations.
Wow. Il est pas mal, hein?
C'est incroyable.
12 ans, 13 ans,
fou,
il a une chatte incroyable.
Ouais. Ouais. Cyril, on va rester un petit peu dans la région. Je voudrais quand même aussi qu'on rappelle ce qui a pu se passer avant. On le disait tout à l'heure qu'effectivement, c'était pas les protest songs avaient évidemment une histoire qui est très longue. Mais c'est vrai que quelque chose s'est réveillé typiquement dans ces pays-là au moment des révolutions arabes. Donc dans ces 10 dernières années, il y a eu notamment en Égypte des choses incroyables qui se sont passées. Il y a ce jeune homme dont j'aimerais qu'on raconte un peu l'histoire, qui est devenu plus qu'une star, qui est devenu un symbole sans même le chercher. Ça commence vraiment par un type seul avec sa guitare qui descend sur la place Tahrir.
Oui, il s'appelle Rami Essam, il est étudiant à l'époque, donc en janvier 2011, hein, au moment des manifs contre Moubarak. Il arrive avec sa guitare sur la place Tahrir, il écoute les slogans des manifestants, il récupère des mots de ces manifs, et puis à un moment il va se retrouver face au public et il va entonner cette chanson qu'il a composée qui s'appelle Iral, dégage. C'est des mots qui s'adressent au président Moubarak et ça va devenir l'hymne de la contestation en Égypte.
ارحل ارحل كلنا ايد واحدة وطرقنا حاجة واحدة ارحل 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 يسقط يسقط حب من عسكر
La communion qu'il peut y avoir à ce moment-là avec les manifestants.
Et l'une des raisons pour lesquelles je voulais quand même qu'on en parle et qu'on se souvienne de ce jeune homme, c'est que bien sûr qu'il y a un côté très communion formidable dans ses musiques comme lieu des manifestations, mais ça se termine pas forcément bien à chaque fois, c'est le moins qu'on puisse dire. Tous ces gens qui chantent, celui-là en particulier, son destin n'a pas été facile juste à cause de cette chanson quand même.
Eh bien, effectivement, parce qu'il est devenu très populaire en Égypte au moment de la révolution, et puis vous savez qu'il y a eu une reprise en main du pays juste après la chute de Moubarak, avec l'armée qui a serré la vis. Il s'est retrouvé parmi les activistes qui ont été emprisonnés, torturés. Il a dû fuir, quitter l'Égypte. Hein. Il a bénéficié d'ailleurs pendant plusieurs années d'un programme qui existe en Suède, qui est un programme qui accueille les musiciens étrangers qui sont en danger dans leur pays. Donc il a pu rester plusieurs années en Suède pour continuer à travailler, à faire de la musique. Alors, il a fait une carrière, hein, Rémi Hassam, qui dure d'ailleurs aujourd'hui. Il a par exemple travaillé, je me souviens d'un duo avec la chanteuse anglaise PJ Harvey. Il fait une musique assez rock, mais il n'a jamais pu rentrer en Égypte. On écoute ce que fait aujourd'hui Rémi Hassam.
C'est pas mal
du tout, c'est très rock. Ce qu'il faut raconter quand même pour l'anecdote, c'est terrible. Un des plus proches collaborateurs de Rémi Hassam, le garçon qui a d'ailleurs réalisé le clip de cette chanson qu'on est en train d'entendre, a été arrêté, emprisonné et a été retrouvé mort en prison l'année dernière en Égypte. Voilà ce qui arrive aux anciens contestataires de la place Tahrir.
Voilà, et aux musiciens des places aussi parfois. Donc c'est important aussi de dire que c'est pas toujours non plus des histoires magnifiques et jolies. Je voudrais qu'on termine en Afrique, en Ouganda. C'est moins tragique et encore que, allez savoir ce qui peut se passer derrière. Et là, l'Ouganda, c'est intéressant parce que c'est pas la chanson qui accompagne le cortège, c'est le chanteur qui accompagne le cortège et qui lui-même se mue en fait en politique.
Exactement. On est en Ouganda donc avec ce garçon qui s'appelle Bobby Wine, qui est d'abord un chanteur de reggae populaire dans son pays et puis qui a commencé à s'engager politiquement, qui a d'abord été élu député et puis il s'est pris au jeu, sa popularité a grandi et il s'est retrouvé opposant numéro 1 puisqu'il a concouru à la dernière élection présidentielle en Ouganda au début de l'année. C'est un garçon très, très malin, Bobby Wine. Il a retenu le message de Bob Marley.
J'allais dire, c'est le rêve de Bob Marley qu'il essaie de réaliser.
Africa Unite. Il y avait quelque chose de très politique déjà à l'époque. Des gens comme Tiken Jah Fakoly ou Alpha Blondy, des artistes reggae africains, ont porté ce combat politique-là. Mais lui va encore plus loin. C'est-à-dire qu'il utilise sa renommée musicale, il la met au service d'un engagement politique. Il a un sens du marketing. Il utilise des bérets rouges révolutionnaires, un peu. Voilà, qui rappelle les Black Panthers pour servir sa campagne. Et il porte aussi ce message politique-là et ce combat-là politique sur scène. Je voudrais qu'on entende un extrait d'un de ses concerts. Voilà, donc là, Bobby Wine est devant son public et il explique voilà, comment le régime ougandais est venu, enfin l'armée est venue chez lui, a capturé son chauffeur, l'a placé en prison tout simplement parce qu'il dit la vérité, parce qu'il parle. Voilà, c'est ça que fait Bobby Wine, c'est que la musique lui sert son combat et ça marche plutôt pas mal puisqu'il est devenu l'opposant principal. Il n'a pas réussi à renverser le système.
Il a perdu les élections tout de même. Voilà.
Il n'a pas réussi à renverser le système. Il a réussi à embarquer une partie de la jeunesse, trois quarts de la population à moins de 35 ans d'Ouganda. Mais ça n'a pas suffi pour remporter cette présidentielle début de l'année. Cela dit, il commence à avoir une renommée internationale importante. Il a des réseaux à l'international et il a l'intention de continuer le combat. Et on peut penser raisonnablement que Bobby Wine pourrait être un jour président de l'Ouganda.
Cyril, c'est passionnant. Merci beaucoup, vraiment. On va rappeler qu'on peut vous entendre autour de toutes ces histoires-là tous les lundis de l'été.
C'est ça.
Dans le journal de 8h sur France Inter.
La série s'appelle Protest Song. C'est effectivement dans le journal de 8h de France Inter jusqu'à la fin du mois d'août.
Et en rattrapage aussi, évidemment. Merci beaucoup.
le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
La suite, c'est le bruit du monde et ça se passe en Égypte où les femmes réclament un nouveau code de la famille. L'ancien est terriblement patriarcal, le nouveau quasiment plus. Il faut donc revoir entièrement la copie. Et l'équipe du mercredi pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Maria Melkurdi.
Nous irons au Pakistan où une école publique pour les personnes transgenres vient d'ouvrir. C'est une première dans le pays conservateur.
Le cinéma en VO et Corinne Pellissier à Cannes, évidemment, avec Désigné coupable de Kevin MacDonald, de Guantanamo et sa folie avec Tahar Rahim. Le monde d'après, bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir à tous. Avec son plan climat présenté cet après-midi, la Commission européenne y va fort. On va se demander si elle y va trop fort.
À tout de suite, tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini. Il fait une petite escale avec Nick Waterhouse, tout elle, sur France Inter.
Are you lost and lonely? Low on time, did you arrive just a way? My voice and I think I keep it. Did I see you walking while you were sleeping? Did I hear you talking? Just like you got some notion. Do you see a mirror where I see an ocean?
Le bruit du monde ce soir est en Égypte. En Égypte où cela fait des années que les organisations féministes se battent pour une réforme du code de la famille, pour sortir du texte qui place les Égyptiennes sous l'autorité de leur mari. Un projet de réforme est finalement arrivé de Parlement au mois de mars, le Parlement au mois de mars, mais au lieu de corriger ces injustices, il les a aggravées. Les féministes ne sont pas décidées à se laisser faire et le reste, c'est Martin Roux qui raconte.
Dans le ciel de Ard el-Lewa, des dizaines de câbles électriques sont tendus entre les immeubles, au premier étage de l'une des tours d'habitation de ce quartier défavorisé du Caire, se trouve le centre d'assistance juridique des femmes égyptiennes. Nahed Samir, une mère divorcée de 3 enfants, a poussé la porte de ce lieu il y a 7 ans.
Mon mari a quitté la maison après 11 années de mariage. Après son départ, je n'avais aucune ressource. Donc j'ai dû aller au devant de la justice pour obtenir une pension. Il y a des failles dans la loi qui permettent aux hommes de se soustraire à leurs obligations financières vis-à-vis de leurs enfants. Cela les encourage à quitter la maison sans se soucier de leurs responsabilités. Et au bout du compte, ce sont les femmes et leurs enfants qui en souffrent, car cela prend énormément de temps pour qu'une épouse fasse valoir ses droits.
Placées sous l'autorité légale de leur mari, les Égyptiennes sont contraintes de justifier une demande de divorce, seul moyen d'obtenir une pension alimentaire ou un logement. Le code de la famille ne prévoit pas le partage des revenus du ménage et seul le père est légalement responsable des enfants, quand bien même la mère en aurait la garde. Toute réclamation nécessite des recours interminables. Chaque jour, environ 15 femmes bénéficient gratuitement de conseils au sein de ce centre. Gawaher El Taher est l'une des avocates qui leur vient en aide.
La plupart des femmes qui viennent ici ont des problèmes liés à la pension, au divorce, à la garde des enfants, ou bien si leurs époux refusent de reconnaître un enfant ou de fournir un certificat de naissance. Depuis la pandémie de coronavirus, les recours pour des pensions alimentaires ont explosé. La situation économique s'est tendue, donc les femmes qui se taisaient et repoussaient ces démarches portent désormais leurs réclamations pour subvenir aux besoins de leurs enfants et de leur foyer.
À l'origine de ces inégalités entre femmes et hommes, une interprétation conservatrice de la jurisprudence islamique qui sert de base à cette loi de 1920. Ainsi, une femme ne peut pas voyager sans l'accord écrit de son mari. L'activiste Aza Soliman est la fondatrice du centre d'assistance juridique. Elle plaide pour une réécriture totale de cette loi d'un autre temps.
Le code de la famille ne considère pas les femmes comme des citoyennes à l'intérieur de cet État, comme si elles étaient déficientes intellectuellement et vis-à-vis de la religion, comme si un homme devait les protéger car elles ne pourraient pas décider pour elles-mêmes. En réalité, dans au moins un tiers des familles égyptiennes, ce sont les femmes qui assurent les revenus du foyer. Les femmes sont ministres et députées. Le contexte politique et économique a changé, mais le législateur ne le prend pas en compte.
Un projet de réforme menace d'entraver un peu plus la liberté des Égyptiennes. Selon ce texte, elles ne pourraient plus se marier sans l'accord d'un tuteur. Autre régression, les chrétiennes se verraient retirer la garde de leurs enfants si leur mari se convertit à l'islam. En mars, cette proposition de loi a fuité dans la presse et provoqué une levée de boucliers dans le camp des défenseurs des droits des femmes. Oda El Sada est la cofondatrice d'un groupe de réflexion féministe. Dans une campagne sur les réseaux sociaux, elle invite les Égyptiennes à partager les injustices qu'elles subissent au quotidien en raison du code de la famille.
J'essayais de changer mon fils d'école et cela m'a été refusé car son père devait faire les démarches. J'ai été également confrontée au fait de ne pouvoir ouvrir de compte en banque pour mes enfants. Donc voilà, j'ai eu ces deux expériences, je les ai partagées sur les réseaux sociaux. Je pense que ces histoires ont permis de souligner l'absurdité, l'injustice et les contradictions engendrées par cette loi. Par exemple, les femmes sont directrices de banque, et bien elles ne peuvent pas gérer le compte de leurs enfants dans les banques qu'elles dirigent. Toutes ces contradictions sont absurdes et doivent être résolues.
Cette professeure d'université se dit confiante. 10 ans après la révolution, le combat féministe est au centre du débat public. Leur mobilisation a été entendue. Un nouveau projet de réforme du code de la famille est en préparation.
Merci beaucoup Martin, à très très vite. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars et c'est Mariam El Kurdi. Mariam, c'est d'abord au Pakistan que vous nous emmenez, nous sommes dans une salle de classe.
Oui, vous l'entendez, dans cette école, ce ne sont pas des enfants ou des adolescents qui lisent à haute voix derrière leur professeur, mais des adultes, tous sont des transgenres. Le pays vient d'ouvrir la première école publique pour les personnes transgenres. Ça peut paraître surprenant dans un pays musulman, plutôt conservateur, mais c'est bien le gouvernement qui finance cette école. Elle est située dans la ville de Multan, dans la province du Pendjab, nord-est du pays. Les enseignants, eux aussi, sont transgenres. Une vingtaine d'élèves inscrits, parmi eux, Ania Eni. Les gens nous considèrent comme un moyen de divertissement lorsque nous sortons, témoigne-t-elle. Les personnes instruites ne se comportent pas mal, mais les analphabètes font des commentaires désagréables et nous harcèlent. Le personnel est extrêmement poli à l'école. La différence entre la vie à l'école et en dehors, c'est que nous nous sentons détendus ici. Les femmes transgenres sont considérées comme un troisième sexe en Asie du Sud-Est. Leur communauté existe depuis plusieurs siècles au Pakistan, mais beaucoup sont rejetées par leur famille ou par la société et se retrouvent à la rue, souvent exclues de l'enseignement. Ici, les personnes transgenres bénéficient de cours généraux et de formations professionnelles, plus qu'un lieu d'instruction, un lieu où elles se sentent libres et en sécurité.
On y était tout à l'heure, retour en Égypte, oui. Mariam, avec une histoire qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.
L'histoire de la fille de Tanta, ou la fille à la robe. Cette jeune fille s'appelle Habiba Tarek, 20 ans, étudiante en lettres. Elle est originaire d'Alexandrie, mais elle étudie à l'université de Tanta, au nord du Caire, une ville conservatrice, certes, mais Habiba Tarek ne s'attendait pas du tout à la mésaventure qui lui est arrivée récemment. Elle se rend à l'université passer un examen. Elle porte une robe fleurie et vasée, au-dessus des genoux, manches longues, pas de décolleté. Rien d'extraordinaire, mais deux surveillantes d'examen en voile intégrale se moquent de Habiba Tarek et la ridiculisent devant tout le monde. Elle constate que sur sa carte d'identité, Habiba est voilée et qu'elle ne l'est plus. Elles lui font une leçon de morale. La jeune fille ne se démonte pas, elle raconte tout à sa famille. L'histoire fait le tour des réseaux sociaux et des médias. L'animateur vedette égyptien Amr Adib se saisit de l'histoire et interview la jeune fille. À voix haute, elle me demande « Alors tu as oublié de mettre ton pantalon ou quoi ?» raconte la jeune fille. L'animateur halluciné lui fait répéter « As-tu oublié de mettre ton pantalon ?» Exactement, répond-elle. Réaction de l'animateur « Mais pourquoi est-ce que tu vas mettre un pantalon ? Tu as déjà une longue robe. Si tu mets un pantalon, c'est parce que tu le portes avec une blouse, par exemple. Ça veut dire quoi, cette histoire de pantalon ?» Et tu lui as répondu quoi ? Habiba répond « Je n'ai pas compris. Je lui ai dit « Mais quel pantalon ?» Sous la pression, l'université a promis une enquête sur le harcèlement subi par Habiba Tarek. Cette histoire reflète un mouvement de fond dans la société, une libération de la parole des jeunes femmes contre ce type de harcèlement, une libération par rapport au port du voile aussi. De plus en plus de jeunes filles le retirent et résistent face à une majorité écrasante conservatrice. Il y a des groupes de parole sur les réseaux sociaux sur le sujet. Et selon la militante féministe égyptienne Shahinaz Abdel Salam, la révolution de 2011 a permis de semer les graines de ce mouvement féministe frémissant dans les actrices ne souhaitent qu'une seule chose, al-hurriya, la liberté, Fabienne.
Et voilà, preuve en est l'histoire du code de la famille dont on parlait exactement. Juste un peu plus haut. Direction maintenant l'Angleterre, où des jeunes filles et leurs familles se battent pour tout autre chose.
Oui, elles ont un point commun, leur prénom, elles s'appellent Alexa et elles n'en peuvent plus de porter le même prénom que l'assistant vocal d'Amazon.
Alexa, put on my Saturday playlist.
Voilà, vous entendez dans cet extrait publicitaire, un homme demande à Alexa, l'assistant vocal, de lancer sa playlist musicale du samedi, de lui rappeler son emploi du temps, de lui détailler la météo du lendemain, etc., etc. Et ça agace beaucoup de monde, ça peut prêter à sourire. Mais le prénom Alexa est courant en Angleterre. Des petites filles subissent des moqueries, du harcèlement à l'école à cause de leur prénom, rapporte la BBC. Une jeune fille a même été jusqu'à changer d'école et de prénom, témoignent ses parents. Mais plusieurs parents formulent la même demande qu'Amazon change le prénom de son assistant vocal. Les géants américains restent sourds à cette demande, Fabienne.
On reste en Angleterre où le théâtre renoue avec son public.
Oui. Dans la ville de Shakespeare, Fabienne, la ville de Stratford-upon-Avon, où le théâtre renaît en plein air après un an et demi de privation. Ça fait du bien à tout le monde, à commencer par la troupe de la Royal Shakespeare Company. Greg Hest est comédien, il joue Dromio d'Éphèse et de Syracuse dans la Comédie des Erreurs et il est ravi. J'ai vraiment hâte que le public vienne, dit-il. Et quand vous jouez une pièce comme celle-ci, c'est comme si le public était un personnage supplémentaire. Il vous informe en quelque sorte du fonctionnement de la pièce. Et bien sûr, tous les comédiens ont vu la pièce tellement de fois. Cela fait longtemps qu'on n'a pas eu de regard extérieur dessus. J'ai vraiment hâte de cela. Alors pour pouvoir jouer dehors, il a fallu 6 mois de travaux pour concevoir des gradins assez solides. Pour le reste, il faut composer avec la crise sanitaire et les imprévus météo. Pas de scène de baiser, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Oui, à cause du Covid, et oui.
Et oui, bien sûr.
Faut éviter. La pluie, les oiseaux ou les cygnes de la rivière voisine pourraient aussi s'inviter. Et là, il faudra faire preuve d'improvisation.
Voilà, le retour du théâtre, ça fait plaisir. Le retour de Shakespeare aussi. Merci, Mariam El-Kurdi. On se retrouve évidemment demain. C'est Patti Smith qui vous accompagne.
Super.
People have the power sur France Inter. Patti Smith, People Have the Power. Sur le cinéma, c'est Corinne Pellissier qui a le pouvoir.
France Inter. Un jour dans le monde.
Le cinéma en VO, au Festival de Cannes et en salle, avec deux personnalités qui ont enflammé la croisette ces derniers jours. La première a reçu une palme d'or pour l'ensemble de sa carrière. Le second est membre du jury de Spike Lee. Et bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour Fabienne.
Au cinéma, ce mercredi, Josie Foster et Taha Rahim à l'affiche du nouveau film de Kevin MacDonald, mauritanienne, désignée coupable en français, tournée à Guantanamo. Et Corinne, on avait l'impression d'avoir déjà tout vu, tout entendu sur le sujet, visiblement, on était très loin du compte.
Oui, c'est un film choc qui pose la question des conditions de détention dans les geôles de Guantanamo, l'impossibilité de l'État américain à fournir à ses prisonniers un procès équitable. On suit l'histoire du point de vue du cerveau présumé des attentats du 11 septembre, Mohamedou Slahi, qui est joué ici par Taha Rahim. Il aura passé au total 14 ans à Guantanamo, libéré en octobre 2016, sans jamais avoir été inculpé d'aucun crime. Il raconte dans ses mémoires ses échanges, notamment avec son avocat, Nancy Hollander, grande spécialiste des droits de l'homme incarnée ici par Jodie Foster. Un rôle très inspirant pour la comédienne, convaincue d'emblée par le scénario de Kevin MacDonald, très ancré dans le réel.
C'est la raison que j'étais tellement excitée de faire le film, parce qu'il est vraiment le metteur en scène parfait pour le film. C'est vrai, il a un sens du documentaire, des faits, de la réalité qui est tellement profond. Mais en même temps, il connaît le cinéma et il veut surtout, avant tout, faire un film émotionnel. Avec une perspective qui est la perspective de Mohamedou et non pas une perspective froide documentaire. C'est un sujet qui est difficile pour nous à digérer. Et là, quand j'ai lu ce scénario, c'était tellement provocateur pour moi. Je voulais absolument faire le film, d'en savoir plus, d'avoir l'opportunité de revenir en arrière, de regarder l'histoire et se dire comment est-ce qu'on aurait pu le faire différemment. Everybody deserves a defense. Hein, c'est ça ce qu'elle dit, Nancy, dans le film. Tout le monde a le droit à ça. Et si on ne tient pas à cette règle, la démocratie n'existe plus.
Alors Corinne, Kevin MacDonald, c'est ce réalisateur écossais qui avait remporté un Oscar en 2007 avec Le Dernier Roi d'Écosse autour du dictateur ougandais Amin Dada. Il a conservé, avec Désigné coupable, cette approche quasiment documentaire avec un comédien qui crève l'écran. Taha Rahim récompensé d'un Golden Globe.
Oui, c'est une interprétation vraiment à couper le souffle. Hein. Sans doute le rôle le plus intense à ce jour de Taha Rahim que l'on retrouve dans le film, battu, torturé, humilié, des conditions de détention terribles, enfermé dans le noir, les pieds enchaînés, privé de sommeil, interrogé 18 heures par jour, tous les jours, arrivé à Guantanamo dans le plus grand secret, ressorti sans amertume. C'est un rôle qui a durablement transformé Taha Rahim. Il en tire une leçon de vie incroyable.
Pour moi, c'est un mélange entre Mohamed Ali et Nelson Mandela. Je tiens une leçon de vie assez phénoménale. Il faut être très courageux pour raconter cette histoire de cette façon-là, avec au centre d'un film américain, un personnage comme Mohamedou, qui est sympathique et humain, et réel. Je ne savais pas si j'allais être capable de réussir ce coup-là. J'ai d'abord perdu 10 ou 12 kilos pour être dans le même état physique que Mohamedou. Et c'est très intéressant en tant qu'acteur, parce que tout ce qu'on ressent à l'intérieur n'est plus sous contrôle. Et par respect pour Mohamedou et les gens qui ont traversé ça, et qui continuent certainement de le traverser, je me devais de l'expérimenter, donc j'ai porté les menottes pour de vrai, j'ai aussi expérimenté le waterboarding. Moi, je savais que j'allais à l'hôtel après. Et puis, on faisait en sorte de jamais me blesser. En tout cas, il fallait que ce soit de l'expérience pure.
All my time here, I've been told you are guilty. Not for something that I have done, but because of suspicions.
The prosecution won't show us the evidence they have against you. It's all redacted.
You got a problem, take it up with the government.
I am innocent.
He has been interrogated. He has been held against his will for 6 years without a single charge being laid against him.
Alors ce n'est pas terminé, une quarantaine de personnes sont encore retenues aujourd'hui à Guantanamo. Plus de 700 prisonniers y ont été enfermés, interrogés, une poignée seulement inculpés.
Allez, le film sort ce mercredi, Désigné coupable de Kevin MacDonald. À découvrir, on l'a bien compris, de toute urgence. Et merci beaucoup Corinne Pellissier.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde d'après, Jean Marfour, la Commission européenne a présenté cet après-midi ses propositions sur le climat. 12 priorités qui mettent la barre très haut et qui vont modifier notre vie quotidienne à tous. Ça ne va pas être simple et on peut même se demander si Bruxelles ne met pas la barre trop haut, justement, et c'est votre monde d'après.
Le plan s'intitule Fit for 55, paré pour 55. C'est un nom ridicule, illisible pour votre gouverne. L'explication est la suivante. Il s'agit d'atteindre l'objectif de réduction de 55% des émissions carbone d'ici 2030. ensuite la neutralité carbone d'ici 2050. Et c'est dommage que le titre soit incompréhensible pour le grand public parce que le contenu, lui, nous concerne tous directement. Les 12 axes retenus dévoilent un programme ambitieux. Disparition des véhicules à essence et diesel, ils ne seront plus commercialisés à partir de 2035, c'est demain, et il n'y aura plus que des voitures électriques. Taxation des compagnies aériennes sur leur kérosène pour tous les vols intérieurs à l'espace européen. Instauration d'une forme de taxe carbone sur le chauffage domestique et sur le carburant pour enrayer la croissance incontrôlée du transport routier. Mise en place d'une taxe aux frontières sans dérogation sur l'acier, l'aluminium, les engrais pour dissuader les entreprises de délocaliser en dehors de l'Union leurs industries polluantes. Objectif relevé à la hausse sur les énergies renouvelables, le produire local pour l'agriculture. Voilà, ce sont les exemples les plus frappants. J'arrête là, la liste est longue, impossible de tout citer. La Commission de Bruxelles, oui, a choisi de frapper fort.
Et donc, elle court un risque, les oppositions s'annoncent tout aussi fortes.
Ça sent le parcours d'obstacles, les mécontentements vont venir de toutes parts. D'abord, il y a le risque d'une colère sociale. Angélique Bois en parlait dans le journal de 18h tout à l'heure, parce que tous les ménages, comme vous et moi, vont sentir passer la facture, en particulier celle du chauffage, qui pourrait grimper rapidement. Alors, la Commission promet un fonds de soutien pour aider les plus défavorisés, mais l'hypothèse d'une grogne façon gilet jaune n'est pas totalement exclue. Ensuite, il y a les industriels, ceux de l'automobile, ils veulent préserver les véhicules hybrides avant le passage au tout électrique. Ils dénoncent aussi le manque de bornes de recharge, il en faudra à peu près 10 fois plus en Europe. Et puis ceux du transport aérien, ils s'insurgent déjà d'une concurrence faussée puisque l'Europe est à ce jour la seule à vouloir taxer le kérosène. Il faut s'attendre aussi à des désaccords entre pays européens. Un exemple, la taxe aux frontières extérieures a le soutien de la France, mais elle est beaucoup moins appuyée par l'Allemagne qui craint des représailles commerciales des États-Unis ou de la Chine. Et puis il y a justement ces grandes puissances étrangères qui vont sans doute elles aussi faire pression sur Bruxelles pour un abandon de certaines mesures. On ajoute enfin le bras de fer habituel entre le Parlement européen et les gouvernements des 27 États membres. Et voilà, on va droit vers une sacrée foire d'empoigne pendant les 12 mois de négociations qui s'annoncent. Ça va tirailler dans tous les sens.
Donc, Jean-Marc, la Commission y est peut-être allée trop fort.
Elle prend un risque, hein, c'est certain. Mais à mon avis, elle a sans doute raison d'y aller fort. Elle donne le là. D'abord, c'est le premier plan de cette envergure sur toute la planète. Un plan détaillé, financé, qui aborde de façon précise tous les aspects de la lutte contre le réchauffement. C'est pas une annonce du type « Yaka Faucon hein. ». Non, c'est un programme technique qui vise à l'efficacité avec des investissements qui se comptent en centaines de milliards d'euros. Et puis c'est aussi un plan qui assume sa priorité, le climat. Il ne se cache pas derrière un discours protectionniste à l'américaine. Il affirme que la préservation de la planète est l'urgence de notre temps parce que, comme le disait autrefois Jacques Chirac, la maison brûle. La maison brûle et l'Europe ne regarde pas ailleurs. Elle s'impose donc comme un modèle, l'incarnation d'un leadership moral sur le sujet à quelques mois de la COP26 à Glasgow. Et elle peut espérer entraîner dans son sillage, c'est son objectif certainement, la Chine et les États-Unis qui à eux deux représentent 45% des émissions de carbone. Alors oui, ça ne sera pas un lit de rose. Le parcours est truffé d'écueils. Mais bon, les technologies énergétiques, numériques, agricoles évoluent. Elles existent aujourd'hui pour rendre cette révolution possible. La Commission européenne fait preuve de courage politique. C'est une denrée rare. Rien que pour ça, ce plan mérite le respect.
Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après. Merci Jean-Marc. C'était votre dernière chronique de la saison, Jean-Marc.
Mais oui.
Eh ben, on vous embrasse. À l'année prochaine, absolument. Nous, on reste ensemble. On ne se quitte plus. Dans un instant, c'est le journal de 19h d'Hélène Roussel. Juste après, le téléphone sonne. Restez avec nous.